dimanche 14 janvier 2024, Janine El-Koubi, présidente de l'association pour une communauté plurielle, a organisé une conférence après son séjour en Israël, à Jérusalem le 7 octobre 2023, à la tenue durant 2 mois, un journal de guerre. Elle nous livre, outre son témoignage, une analyse personnelle des événements et des conséquences sur le monde et le monde juif. Janine El-Koubi commence son témoignage en rappelant l'importance de se retrouver.
Nous sommes tous dans la communauté juive, dans les communautés juives, dans un grand désarroi, dans un grand questionnement, dans une grande remise en question. Et c'est nécessaire et c'est souhaitable et c'est bon de nous retrouver pour échanger, de nous retrouver également avec nos concitoyens afin de pouvoir aussi témoigner de ce qui s'est passé en Israël, témoigner de l'intérieur, et c'est en effet une position de témoin que je revendique, en aucun cas une position de spécialiste dans quelque domaine que ce soit, une position de citoyenne qui s'autorise et qui se fait un devoir de réfléchir, et une position également d'analyse. Je vais commencer par les faits, raconter la manière dont les choses se sont passées, dont cette journée catastrophique nous a assommés. Donc Shabbat, le samedi de Simrat Torah, Shabbat 7 octobre, ça va être un petit récit rapide, je ne vais pas trop m'attarder sur les détails, mais ça va être fait évidemment par mon regard, par mon filtre, par la manière dont moi j'ai vécu les choses. J'étais donc à la maison, mon mari était à la synagogue, ça se passe très souvent comme ça, mon mari à la synagogue et moi à la maison. Et tout à coup, vers 7h30 du matin, j'entends une sirène. Et j'ai mis une demi-seconde à comprendre que ça n'était pas les sirènes de Strasbourg, que c'était quelque chose qui était inquiétant. Et donc j'ai eu le réflexe d'aller tout de suite dans la chambre blindée, dans ce qu'on appelle le mamad, la chambre blindée, et d'attendre la fin de la sirène. Et je me suis dit, bon, c'est peut-être une alerte, quelque chose comme ça. Ça s'est reproduit 5 fois dans l'espace de 4 heures, donc entre 7h30 et 11h. Et là, j'ai compris que quelque chose de grave se passait. À la synagogue, mon mari m'a raconté qu'on a interrompu l'office de Simrat Torah. Vous savez, l'office de Simrat Torah, c'est toujours plein de joie, plein de danse. Tout le monde est allé là aussi dans l'abri et on a réduit énormément les montées à la Torah, les chants. Et on a peu à peu appris ce qui s'était passé. À midi, au retour de la synagogue, on a entendu parler d'attaques sur des bases militaire, quand on sait que la réputation de l'armée, c'était d'être presque invincible. On parlait à ce moment-là de 20 morts. Et puis, au fur et à mesure de la journée, c'était Shabbat Simrat Torah, les familles religieuses dont nous sommes n'écoutent pas la radio, on entendait des bribes inquiétantes par-ci, par-là, et le soir, ça a été l'horreur, l'effroi, la sidération, j'utilise un mot qui a été beaucoup utilisé, sidération, mais l'effroi de voir l'étendue du désastre, et on n'en était pas encore à connaître l'étendue réelle du désastre. Ce que nous avons entendu le soir, c'était l'intrusion brutale, la barrière autour de Gaza enfoncée, l'intrusion de hordes de terroristes dans les villages du sud, de Sderot, Kfar Aza, Be'eri, des meurtres, une fête de musique où étaient présentes 3000 personnes massacrées. Et donc, au fur et à mesure, les nouvelles arrivaient au compte-gouttes, toujours plus catastrophiques. On parlait le premier soir, on parlait de quelques centaines de morts, 200, 300 morts. Et au fur et à mesure que le temps passait, que les heures passaient, que les jours ont passé ensuite, les chiffres ont grimpé de façon absolument vertigineuse. Tout de suite, évidemment, a été utilisé le mot de pogrom. J'ai quand même dire une chose, c'est qu'on tuait au son de la récitation du Coran et on tuait au son de la fameuse prière qui, pour nous en Occident, résonne de façon sinistre, Allahu Akbar. Donc, sidération, effroi, frisson, et déjà à ce moment-là, le sentiment de quelque chose qui basculait. Les questions aussi qui arrivaient, mais qu'on n'a pas voulu prendre en considération la question, comment se fait-il qu'une frontière comme celle de Gaza se soit retrouvée dégarnie de puissance militaire? Les assaillants sont entrés là-dedans comme dans du beurre sans trouver la moindre résistance. Comment se fait-il aussi que les renforts, je n'ai pas dit encore que le matin du 7, une des choses qui ont été source d'angoisse, bien sûr, c'est que la mobilisation s'est faite dans l'urgence. On est allé appeler les soldats, les réservistes dans les synagogues, dans les familles. Nos petits-fils, nous avons 5 petits-fils ou petits-fils par alliance qui ont été appelés, tous les 5. Certains pères de famille, l'un d'entre eux père de 4 enfants, d'autres de jeunes soldats, à l'image de ceux dont vous pouvez voir les photos. La chose que je voudrais également souligner, dès le lendemain, le 8 octobre, c'est l'incroyable élan de solidarité qui a eu lieu. N'oublions pas que jusque-là, la société israélienne, pendant 9 mois ou davantage, a été extrêmement divisée. Il y a eu, comme vous le savez, des manifestations répétées très très nombreuses, des solidarisations même de membres de l'armée qui disaient qu'ils ne voudraient plus faire les milouim, c'est-à-dire les périodes de réserve. C'est incroyable comme du jour au lendemain, ces divisions-là ont été quelque part reléguées dans le passé. C'est comme si le tissu social déchiré s'était magiquement recousu. On a eu des organisations spontanées de repas apportés aux soldats qui étaient en partance pour le front, des dons du sang, de l'aide apportée à toutes ces jeunes femmes qui, du jour au lendemain, avec parfois 3, 4, davantage d'enfants, se retrouvaient seules à la maison, sans aucune préparation. Il y a eu de tous les côtés une aide énorme qui s'est mise en place et une volonté vraiment de faire front et faire mur, si j'ose dire, autour de l'armée. L'armée qui représente les enfants de la population israélienne, leurs fils, leurs maris, leurs fils, leurs petits-fils, leurs filles, leurs petites-filles. C'est le peuple en armes. Quand en France on parle d'armée, c'est toujours entaché d'une certaine négativité. L'armée, ce sont les méchants, ce sont les tueurs, ce sont ceux qui portent la mort. En Israël, l'armée, ce sont ceux qui protègent, ceux qui sont la condition même de la survie du peuple. On est parfaitement conscient que si l'armée, ces jeunes soldats, ne font pas ce mur entre les assaillants et la population, eh bien, c'est la perte, c'est la disparition non seulement de l'État juif, mais la disparition de ses habitants, le massacre de ses habitants. L'horrible méfait, forfait du Hamas le matin du 7 octobre a démontré clairement ce dont ces organisations terroristes sont capables. Ce qu'ils ont fait non seulement sans le moindre scrupule, mais avec, et ça aussi c'est un élément tellement important, avec cette fierté, cette conscience de l'exploit extraordinaire accompli, je pense qu'en France on a quand même fait part de ces coups de fil donnés par certains terroristes du Hamas à leur famille disant « Maman, tu peux être fière de moi, je viens de tuer 10 juifs de ma main ». Ça n'a pas empêché le négationnisme par la suite. Ces accomplissements noirs des bandes de terroristes du Hamas ont montré que Israël n'avait pas le choix. C'était ou eux ou nous. Il y a eu ensuite les témoignages absolument hallucinés et hallucinants de ceux qui avaient survécu, qui ont raconté. Il y a eu les films et les vidéos prises également par des gens des villages attaqués. On a vu ensuite aussi les images de ce qui reste de ces villages, la destruction absolue de certains d'entre eux. En ce qui me concerne, puisque j'ai dit que je prenais la position du témoin, au-delà de la sidération et de l'effroi, je me rappelle de dimanche soir, de l'appel de mes filles de Strasbourg qui venaient d'apprendre en France dans les communautés. Il y a 2 jours de fête. En Israël, il n'y en a qu'un. Donc le détail de tout cela est arrivé à mes filles dimanche soir seulement. Et je me rappelle le coup de fil de mes filles effondrées, catastrophées, n'en croyant pas leurs oreilles. En ce qui me concerne, nous avons dans la famille, dans notre famille là-bas, nous avons, par exemple, une de mes petites filles a passé des nuits entières à faire des chalotes. Alors vous allez me dire, des chalotes, c'est dérisoire. C'était pour les soldats qui étaient stationnés à proximité de Gaza ou qui parfois, il s'est trouvé qu'il y a eu un moment où il n'y avait pas assez à manger. On était dans un état d'impréparation, même au niveau militaire, qui était assez extraordinaire. Donc il y a eu des initiatives dans ce sens-là. Et moi, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux faire? Il fallait lutter contre l'angoisse. Il fallait essayer de faire quelque chose d'utile. Et ce que je sais faire, c'est écrire. Alors j'ai écrit. J'ai commencé un journal de guerre. J'ai publié ces textes sur les pages Facebook. Il me semblait extrêmement important, d'abord, de faire part à l'extérieur de ce qui se passait à l'intérieur. Du ressenti des gens, du désastre de ces jeunes soldats qui tombaient, dont on voyait les photos tous les matins avec angoisse dans la presse israélienne. Faire part du désespoir, mais aussi de la dignité des familles lorsque les soldats, les uns après les autres, tombaient. Faire part également à l'extérieur, dans la communauté juive, mais aussi à l'extérieur de la communauté juive, dans les milieux judéo-chrétiens par exemple, dans les milieux non seulement judéo-chrétiens, mais dans les milieux de nos concitoyens, pour contrer tout un pan d'informations qui peu à peu commençait déjà à tourner kazakh.
Merci Janine Elkoubi. Alors, vous parliez du poids des mots, les mots comme des armes, une propagande s'est mise en place petit à petit. Aujourd'hui, beaucoup d'informations sont fausses. On entend des mots comme génocide. Alors, pour parler du conflit à Gaza, le mot d'apartheid de toujours. Vos mots aujourd'hui, de quelle façon vous pouvez contrer? Comment est-ce qu'on peut sortir justement de ce vocabulaire au-delà de la communauté juive et toucher l'opinion internationale?
Qui s'est passé, après j'essaierai de répondre à la question, c'est qu'on a eu, dans les premiers jours qui ont suivi la catastrophe, on a eu des réactions horrifiées de pratiquement dans le monde entier. L'horreur devant les exactions du Hamas. Et là aussi, tout de suite, nous savions que ce capital de sympathie pour Israël n'allait pas durer longtemps. Et nous savions bien que dès qu'il serait question des premières victimes civiles, la sympathie allait se transformer en accusation. Et c'est ce qui n'a pas manqué. Je voudrais quand même préciser, ça non plus, je ne sais pas si ça a été dit en France, que l'armée israélienne a essayé et continue d'essayer de faire tout son possible pour limiter les victimes civiles, pour limiter le nombre de victimes civiles. Mais il est clair que les personnes qui ont essayé sur les instructions de l'armée israélienne de quitter le nord de Gaza et de se réfugier plus au sud ont été très souvent empêchées de quitter leur maison par le Hamas en armes, ont été empêchées d'emprunter la route qui avait été consacrée à ces réfugiés-là. Et il y a eu de nombreux témoignages, y compris de Palestiniens qui, lorsqu'ils ont pu parler, de Palestiniens qui accusaient le Hamas, qui disait « ces chiens du Hamas nous ont mis dans cette situation ». Donc ça a été pour essayer de rectifier un petit peu cette marée d'accusations qui a été lancée contre Israël, au point qu'on a utilisé les termes de génocide. Déjà auparavant, il a été question d'apartheid, lancé en particulier par cette organisation internationale que vous connaissez, qui s'appelle Amnesty International. Et là, je voudrais d'ailleurs témoigner là aussi de la réalité de la société israélienne. C'est une société dans laquelle il y a 20% d'Arabes, que par exemple à l'hôpital Shaare Tzedek, où travaille ma fille est sage-femme, une énorme partie du personnel infirmier, des sages-femmes, des médecins sont des Arabes israéliens. Les accouchés, puisque ma fille est sage-femme, il y a énormément d'accouchés arabes israéliennes, mais aussi palestiniennes. Il n'y a jamais eu la moindre discrimination. Il y a eu, à l'hôpital Shaare Tzedek, mais aussi dans les autres hôpitaux, un mouvement de révolte. Après les meurtres commis par le Hamas, il y a eu des terroristes qu'on a amenés dans certains hôpitaux. Les auteurs des horreurs perpétrées le 7 octobre, là, il y a eu un mouvement de révolte de la part des équipes médicales qui ont dit « c'est pas possible qu'on soigne des gens qui ont tué nos familles, qui ont non seulement tué nos familles, mais qui les ont violées, qui les ont mutilées, qui les ont brûlées ». Il y a eu donc une réponse de la direction de l'hôpital Shaare Tzedek et du rabbin qui s'occupe de l'hôpital de Shaare Tzedek. La seule raison pour laquelle on pourrait refuser de s'occuper de ces terroristes, ce serait si on était soi-même en danger. Ce qu'on appelle en hébreu la notion de pikuach nefesh. Dès lors qu'on n'est pas en danger, on a le devoir de s'occuper de tout le monde. Néanmoins, ont-ils ajouté, donc ce sont deux lettres différentes qui ont été publiées dans la presse israélienne, nous demandons que ces terroristes qui ont besoin de soins, qui ont besoin d'être soignés, soient emmenés dans des hôpitaux différents, dans des unités de soins qui soient dépendantes de l'armée, de telle manière que ça soit supportable par la société israélienne. Ça, je voulais que ça soit su, parce que c'est certain que ça n'a pas été dit, que non seulement on ne liquide pas les terroristes, mais on dit que moralement, éthiquement, on est obligé de soigner ces gens qui sont des meurtriers. Il y a un autre témoignage que je vais vous apporter pour dire combien cette notion d'apartheid elle est absurdement mensongère. J'ai une de mes petites filles qui veut faire des études de médecine en Israël. Pour entrer à l'université en Israël, on doit passer par des examens qui s'appellent des psychométriques. Sachez qu'il y a une discrimination positive en faveur des étudiants arabes. Pour être médecin, disons que ma petite fille doit avoir 600 points, eh bien, l'étudiant arabe, lui, n'aura besoin que de 400 points pour entrer à l'université. Est-ce que c'est ça qu'on appelle un apartheid ? Et sur la question du génocide, vous savez qu'actuellement, Israël est obligé, enfin, a accepté en tout cas, de répondre à une plainte portée contre lui par l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, dont l'histoire est liée à celle de l'apartheid, et qui a fait cette plainte de génocide contre Israël. On n'a pas accusé le Hamas de ce qu'il a commis, un génocide. Très rapidement après le 7 octobre, il y a une chaîne libanaise qui a interviewé un responsable du bureau politique du Hamas, qui s'appelle Ghazi Hamad. Et ce responsable a dit sans l'ombre d'un scrupule, sans l'ombre d'une gêne, il y a eu le 7 octobre, il y aura le 10 octobre, il y aura le millionième octobre, mais nous y arriverons. Et donc, le Hamas n'a pas été crédité, si j'ose dire, d'un génocide. Et c'est Israël qui se défend, qui défend sa survie sur un territoire minuscule, avec une population infime par rapport à l'énormité du monde arabe qui l'entoure. C'est Israël qui est incriminé pour génocide. C'est quelque chose qui est insupportable.
Est-ce qu'on pourrait également évoquer le silence des associations féministes ici en France, ailleurs, en Europe, au niveau mondial également ? En fait, beaucoup de femmes ont été assassinées, certes, mais violées dans des circonstances abominables, effroyables. Est-ce que aujourd'hui, les associations féministes s'emparent de cela, dénoncent ces viols et ces exactions contre les femmes en Israël ?
Ça a été un des sujets, je vais dire, utiliser un mot très fort, pour moi et sans doute pour beaucoup d'autres, un sujet de détresse. Ce silence, alors je commence par parler du silence des organisations non gouvernementales en général. Toutes ces organisations qui sont censées s'occuper du bien-être des gens à travers le monde. L'UNICEF, commençons par l'ONU déjà. L'ONU, vous vous rappelez sans doute les déclarations scandaleuses de Guterres, relativisées, prétendaient contextualiser l'horreur du 7 octobre en disant « c'est pas arrivé dans le désert, c'est pas arrivé dans le no man's land, dans le vide, c'est arrivé comme conséquence de l'occupation, d'une occupation par Israël de territoires qui ne lui appartenaient pas ». Ça ne nous surprend pas, nous savons tous le taux de condamnation prononcé par l'ONU contre Israël par rapport aux condamnations prononcées contre les pays totalitaires, auteurs de massacres, auteurs d'infractions graves aux droits des gens. Mais les organisations comme l'UNICEF, qui est censée s'occuper du bien-être des enfants, l'UNICEF ne s'est pas fendu d'un mot pour dénoncer le fait que des enfants, depuis un bébé jusqu'à des enfants plus âgés, étaient pris en captivité et traités comme ils l'ont été traités. Médecins sans frontières, Médecins du Monde, Médecins sans frontières en tout cas, étaient présents, et on le voit sur les photos dans les hôpitaux de Gaza. Ils ne pouvaient pas ne pas avoir vu ce qui se passait dans ces hôpitaux, ne pas avoir vu que les hôpitaux servaient de dépôt d'armes, servaient de base de lancement, que les environs des hôpitaux étaient entourés de gens du Hamas qui tiraient. Ils n'ont jamais parlé, ils n'ont jamais rien dénoncé du tout. J'en viens aux organisations féministes. Les organisations féministes, à commencer par UN Women, les femmes de l'ONU, n'ont pas eu un mot pour dénoncer les exactions que Valérie vous avez citées tout à l'heure. Pas un mot à aucun moment. Les organisations féministes en France sont allées jusqu'à refouler lors de la manifestation du 25 novembre à Paris, sont allés jusqu'à refouler les Israéliennes et les Juives qui prétendaient dénoncer le féminicide du 7 octobre. Il y a eu plusieurs pétitions qui ont été lancées en France. L'une d'entre elles, c'était la première, j'avais dans un premier temps refusé de la signer parce que cette pétition qui avait été lancée, je crois, par Olivia Catan, cette pétition stigmatisait, dénonçait précisément le féminicide qui avait été orchestré le 7 octobre. Et j'ai été extrêmement choquée qu'on puisse désolidariser le sort des femmes de celui des hommes et des enfants qui avaient tous subi des violences innommables, des comportements d'une agressivité et d'une inhumanité incroyables. J'ai écrit un texte, une lettre ouverte aux organisations féministes. Il y a un mouvement qui s'est créé en réponse d'ailleurs à cela, qui s'appelle « Me too, sauf quand je suis juive ». Je crois qu'on ne peut pas ne pas voir cette discrimination-là, parce qu'il faut arrêter de se faire des illusions. C'est bien évident que l'une des choses qui sont apparues à travers tous ces événements, tous ces éléments-là, c'est qu'un antisémitisme qui s'était caché, qui était resté retenu depuis la Shoah, plus que 40 ans ça fait, cet antisémitisme-là a peu à peu relevé la tête, bien avant le 7 octobre, et cet antisémitisme qui s'était également dissimulé à l'abri de l'antisionisme, il n'a plus aucune gêne à s'exprimer, à se définir et à se justifier, à se légitimer. Et quand je parlais tout à l'heure de basculement, je voudrais dire que pour moi, ce basculement-là, il est allé en se précisant au fil du temps. Je me suis retrouvée à avoir à remettre en question tous les repères, tous les positionnements qui étaient les miens. Où est-ce que je suis en tant que femme, en tant que femme juive, en tant que citoyenne française? Comment tous ces pans de mon identité s'articulent-ils maintenant? Est-ce que je peux continuer à dire, comme mes convictions jusqu'à présent me l'ont dicté, que je suis au carrefour de plusieurs identités? Est-ce que je peux continuer à le dire? Ou est-ce que, de par l'action néfaste de tout ce qui s'est passé, de tous ces gens qui n'ont pas eu le courage de reconnaître les choses, qui sont trompés ou qui acceptent d'être trompés par des slogans, par des ignorances. Est-ce que je vais être obligée de reconsidérer tout cela, de me positionner autrement ?
Depuis le 7 octobre, on a le sentiment, c'est plus qu'un sentiment d'ailleurs, que ce conflit, que cette guerre menée à Gaza est politisée ici, en France. Ce sera, selon vous, l'objet et l'objectif également des prochaines européennes de lutter contre cet antisémitisme qui monte via certains groupuscules politiques, groupuscules, le mot est gentil, quels groupes politiques qui sont assez puissants, et notamment chez les jeunes et sur les bancs des facultés.
De façon générale, je pense que la lutte contre l'antisémitisme, qui devrait être prioritairement, je le rappelle quand même, l'objectif de la société française ou européenne en général, cette lutte contre l'antisémitisme, elle est nécessaire, elle est indispensable, parce que nous savons bien que, et l'histoire nous a enseigné, que l'antisémitisme, et en particulier cet antisémitisme-là, qui a repris du poil de la bête par le biais de l'islamisme, cet antisémitisme-là, il n'est que le visage premier d'un anti-occidentalisme, d'une opposition farouche, celle de l'islamisme, à ce que représente la société occidentale en termes de liberté, en termes de droits des êtres humains, en termes, et j'insiste énormément là-dessus, de droits des femmes. Si cette lutte contre l'antisémitisme n'est pas prise en compte ou pas prise en compte suffisamment, c'est toute la société qui en paiera très rapidement le prix. Je voudrais quand même dire aussi que ce que nous pouvons constater, me semble-t-il, c'est qu'au niveau des pouvoirs publics, au niveau du gouvernement, la menace est prise au sérieux. Que les mesures qui ont été prises dans les dernières semaines montrent qu'on réagit lorsqu'il y a des dérapages sur les réseaux sociaux, par exemple. Il n'y a plus la même impunité. Il y a des réactions qui sont faites au niveau des tribunaux, au niveau de la prise en charge sur le plan juridique. Et quelque part, à la fois, c'est rassurant, et en même temps, c'est peut-être aussi, tardivement, mais en tout cas, ça le mérite d'être mis en pratique maintenant, une mesure dissuasive.
C'était des extraits de la conférence de Janine Elkoubi, présidente de l'association pour une communauté plurielle, à la suite du pogrom du 7 octobre 2023.